Bonjour et bienvenue à tous. Vous écoutez l'émission Cinébrunch, votre magazine pro-cinéma, pro-film et pro-créativité. Devant mes yeux, Mélina et Louis, comment allez-vous, chers collègues?
Salut!
Ça va très bien, malgré le froid sibérien.
Absolument! Et je pense qu'on peut dire d'ailleurs que l'hiver est totalement arrivé, du moins selon mes standards. Il y a de la musique de Noël dans les magasins et il fait noir à 4 heures. Donc, si comme moi, vous avez une impression de déjà-vu et que vous avez le pressentiment que vous allez endurer cet épouvantable film météorologique durant encore un bon 6 mois, nous allons avoir une solution pour vous. Dans la deuxième demi-heure de cette émission, on vous présentera notre top 3 des films qui nous réconfortent et nous font sentir bien quand on en a besoin. Et ça, et aussi, Louis va nous faire une chronique sur Matt le démon.
Je refuse cette appellation.
Sinon, on critiquera pour vous Le Crime de l'Orient Express, qui est au cinéma, hein, ainsi que Le Retour de Papa 2. Et de mon côté, j'ai vu le film québécois Nous sommes les autres. On écoute ses critiques dans quelques minutes. Mais j'aimerais en profiter d'ailleurs pour vous dire un mot sur le film français Barbara. Je ne sais pas s'il est encore à l'affiche, mais si oui, et que vous aimez la chanteuse ou même la chanson française, c'est définitivement un incontournable. Et en fait, la vérité sur ce film-là, c'est que c'est vraiment très étrange. On se surprend à la base par le réalisme et l'intensité des scènes. Jeanne Balibar est incroyable dans son rôle, puis c'est un film qui nous fait vraiment nager entre des images réelles du passé de la chanteuse et des scènes contemporaines du tournage d'un film sur la chanteuse. C'est ça qui est un peu bizarre dans ce film-là. Le personnage de l'actrice, mais aussi celui du réalisateur, évidemment le personnage du réalisateur, deviennent comme un peu obsédés par le rôle de la chanteuse pour laquelle il y a beaucoup d'incertitudes. Et on finit par plus trop savoir dans quel monde on est. Des fois, on a l'impression qu'on est dans la réalité, qu'on est dans le film, on ne sait plus, puis tout d'un coup, on voit une caméra, on voit un plan de caméra, puis on voit une équipe de tournage, mais on était certain qu'on était dans le film. En tout cas, tout ça pour dire, c'est vraiment très intéressant à voir, et il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin à ce film-là, ça suit aucune logique scénaristique typique, et ça vaut vraiment la peine si vous aimez l'art sous toutes ses formes. Et Louis, de ton côté, quoi de neuf?
Mais moi, je tiens à souligner à nos auditeurs et auditrices, s'ils ne savaient pas déjà, que cette émission est un laboratoire.
Absolument.
Là, nommément, on est en train d'essayer une nouvelle formule d'introduction où est-ce que j'ai forcé à coup de fourche et de pique Jim à nous laisser un moment de liberté pour discuter des choses qu'on a fait cette semaine.
Qui est l'esclave, pourquoi... le maître ou l'esclave?
Ben, concrètement, c'est toi qui réalise. Mais... sérieusement, cette semaine, je dois faire une confession. J'étais vieux jeu jusqu'à tout récemment. Toutes mes chroniques étaient écrites papier. On peut retrouver dans les archives mon petit journal qui inclut chacune de mes chroniques, les sorties cinéma, ainsi que mes autres projets qui se retrouvent tous dans le même livre.
Et le livre s'appelait... Il y avait un nom particulier, le livre.
Le journal super honteux de Louis.
Ouais, c'est
mais
ça.
Ce matin, je me suis tanné. Ce matin, j'ai dit non. Ce matin, quand j'ai vu que la suite des sorties que j'avais à faire et que finalement j'avais juste à réécrire les sorties de presse des grands distributeurs, j'ai fait non. Cette semaine, pour la première fois, mesdames, messieurs, ma chronique est écrite sur mon cellulaire.
Wow.
Bienvenue en 2017, Louis.
Pam, pam, pam. Ouais, bienvenue en 2017, précisément.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Presque. Et Mélina, de ton côté, quoi neuf?
Oui, et cette semaine, c'était à la télévision, comment on appelle ça, la finale de la saison de l'automne de Grey's Anatomy, donc l'épisode 301, parce que la semaine dernière, on a vu l'épisode 300, qui était vraiment une lettre d'amour aux fans de longue date, donc on avait plein de clins d'œil aux premières saisons. C'était franchement très bon, si vous ne l'avez pas vu, puis si vous aimez les anciens Grey's Anatomy, comme on dit, c'était vraiment excellent à voir. Ainsi que la finale de la saison d'automne. Puis, on va reprendre ça au mois de janvier ou février, à peu près, donc dans très longtemps. Donc, ça vous donne le temps de repasser à travers les 14 saisons, si jamais vous voulez, si ça vous tente.
Et c'est pas, hein?
Si vous êtes vraiment très fan,
voilà.
Mélina. Aïe, 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 c'est de toute beauté. Merci. Et ben voilà. En attendant, fermez vos appareils électroniques parce que ça gosse pas juste les employés du cinéma. Voici Cinébrunch. Louis, est-ce que la moustache d'Hercule Poirot est à la hauteur de tes attentes dans le Crime de l'Orient Express?
C'est une question uniquement de moustache. Définitivement que ça valait la peine. Mais...
ça promet, ça?
Non, la prothèse moustachue est vraiment... est un rôle à l'entière. C'est un personnage dans le film. Mais basé sur le livre célèbre d'Agatha Christie du même nom, Le Crime de l'Orient Express, version 2017, c'est la deuxième fois qu'on voit l'univers de Madame Christie en film comme ça. La première fois, c'était en 1974 avec Sean Connery et Ingrid Bergman. On a également eu deux adaptations télévisuelles, une fois en 2001, l'autre en 2010. Bref, c'est un livre qui a fait du chemin.
Absolument.
Mais avant d'aller plus loin dans la chronique, je vais écouter la bande-annonce.
C'est quand même quelque chose, cet enchevêtrement d'inconnus. Enfermés ensemble pendant des jours, qui n'ont rien en commun sauf le besoin d'aller d'un endroit à un autre, et qui ne se reverront jamais. Je sens quelque chose de malfaisant dans ce train. Un passager est mort.
Et vous, qui êtes-vous ?
Je m'appelle Hercule Poirot, et je suis sans doute le plus grand détective du monde.
Damn! Et voilà.
Carrément.
Fait que c'est là-dessus que ça commence, ou presque. Alors que le célèbre détective Hercule Poirot est à bord du train de l'Orient Express, un meurtre sordide est commis. Le directeur du train demande alors à son ami Poirot de mener l'enquête et de résoudre les crimes avant l'arrivée des policiers. D'abord hésitant, le détective belge finit par accepter la mission. Rapidement, il constatera que tous les passagers sont des suspects dans cette affaire. Ils ont tous un lien, de près ou de loin, avec la famille Armstrong, qui a vécu un terrible drame il y a de cela plusieurs années. Cette enquête remettra en doute les valeurs les plus profondes du détective. Fait que ça, c'est la mise en place du film. On a une pléthore. Et j'ai choisi mes termes avec soin ici.
Avec synonyme.
Une pléthore de vedettes. Oui, j'avais un thésaurus ce matin. On a Judi Dench, Johnny Depp, Penelope Cruz, Michelle Pfeiffer, Tom Bateman, Willem Dafoe, Kenneth Branagh. On a également Daisy Ridley, qu'on a connu comme étant Rey dans l'univers de Star Wars, et Josh Gad, la voix d'Olaf dans Frozen, ainsi que le fou dans le plus récent, La Belle et la Bête.
Quand même.
Kenneth Branagh, qui a une année vraiment occupée. Parce que non seulement est-ce qu'il a joué dans le film, il a produit le film, il a réalisé le film.
Oh, yeah, yeah.
Il était aussi le colonel dans Dunkirk qu'on a vu plus tôt cette année.
Ah oui? Ah bon? Ah oui?
Ben oui, définitivement.
Celui qui était sur le...
Yes.
Ah oui, OK.
Mais sans moustache. Sans moustache.
Il pouvait pas avoir une moustache autre. Parce que Hercule en avait une, oui, c'est
non,
ça.
Non, c'est ça. C'est quoi... Bon, fait que je vais commencer par ce que j'ai vraiment aimé du film, parce que il y a beaucoup de choses. C'est vraiment joli. On suit vraiment le train qui traverse. Il y a beaucoup de moments où ils font des, excusez l'anglicisme, mais des CGI crane shots, où ce qu'on voit des plans panorama du paysage. On se sent vraiment dans une espèce de monde inconnu qui est hostile envers les gens qui sont dans le train, les gens qui sont claustrophobiquement coincés dans le train. C'est vraiment, à part peut-être un ou deux plans de caméra bizarres justifiables un peu par le train. Le directeur de photo est extraordinaire dans ce film-là. C'est évidemment extraordinairement bien joué. Mm. On s'entend que quand t'as des grosses pointures, comme ce que j'ai nommé plus tôt, t'as pas le choix d'avoir ça. Mention toute spéciale à Judi Dench, que j'ai vraiment beaucoup aimé dans le rôle de la princesse qui acerbe et acariâtre qui...
C'est inhabituel, ça. Comme
oui, mais elle le fait si bien.
Ah, okay.
La dernière fois que je l'avais vu, c'était dans James Bond aussi. Puis c'était aussi le fun parce que je suis un gros fan de littérature policière, de whodunit. Et c'est rare qu'on voit une structure aussi classique tournée au cinéma avec vraiment les aspects là, du crime, de la résolution, de la trouve d'indices pour une résolution finale. Par contre, c'est ça. Ça aurait été vraiment le fun si en plus d'avoir la structure classique, on aurait eu le suspense classique ou qu'on aurait eu accès à... ça n'a jamais levé.
Ah ouais?
Tout le long du film, j'attendais le moment où j'allais être excité, où j'allais poser la question, mais c'est comme si à chaque fois qu'on allait pour peut-être avoir quelque chose, on changeait de focus, on s'en allait vers autre chose, ou on changeait de personnage, ou il y avait comme une information contradictoire qui arrivait. On n'a jamais le temps de s'asseoir, de viser une personne comme étant le coupable avant que le film nous redirige vers autre chose. Je me base pas sur l'original d'Agatha Christie, ça fait trop longtemps que je l'ai lu pour me rappeler même de l'intrigue, mais C'est ça. J'aurais préféré qu'on prenne plus de temps pour asseoir les personnages, quitte à mettre moins d'emphase sur certains d'entre eux. Mais là, c'est ça. Fait que ça manquait un peu de charme à ce niveau-là. La finale, sans faire de divulgateur, ne m'a pas plu. Okay. C'est pas quelque chose que j'ai apprécié parce que on manquait. C'est comme si on manquait d'éléments. C'est comme si, lors de l'édition du film, ils ont coupé une demi-heure complète du film qui nous donnait les éléments d'action qu'on aurait pu comprendre et qu'on aurait pu voir pourquoi on s'est ramassé là.
Okay. Mais ça, c'est, personnellement, pour avoir lu pas mal d'Agatha Christie, c'est aussi dans les livres un peu le sentiment qu'il y a des éléments qui sont un peu tirés par les cheveux qu'on n'aurait pas pu tant deviner. Là.
Non, 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 mais c'est même pas une question de ça, c'est vraiment une question qu'on n'y croit pas. Okay. On arrive à la fin, là, l'intrigue finale était finie, puis j'ai regardé comme les gens dans le cinéma avec moi, puis il y avait quelqu'un que je connaissais, puis c'est ça, c'est, t'arrives à la fin, tu fais « Ah ouais, ah bon. »
Ah, c'est
Mais c'est ça, fait que c'est un peu différent. Okay. Aussi, en tant que fan d'Hercule Poirot, parce que l'inspecteur belge a été mon inspiration quand j'étais jeune, la raison pourquoi encore aujourd'hui j'aime les films policiers, il est vraiment décrit dans les romans comme étant une personne beaucoup plus stoïque, beaucoup plus... froid, ben pas froid, mais calculateur ou renfermé sur lui-même. Dans ce film-là, on voit un Hercule Poirot émotif, on voit un Hercule Poirot qui se prend d'affection pour certains des personnages, certains pour l'intrigue du crime, c'est pas... Fait que bref, 6 sur 10, correct 6 sur 10,
ben, ça passe.
Parce que j'ai aimé vraiment les images, puis que... Il y a des moments de brillance, il y a des scènes qui valent la peine à elle toute seule. Josh Gad, entre autres, comme étant McQueen, est excellent. Kenneth Branagh, comme Hercule Poirot, est vraiment crédible. Mais c'est ça, il manque peut-être une petite chose, une étincelle de magie pour que j'y croie encore plus et qui me permette de monter plus haut que 6.
Eh bien, c'est dommage. Mais pour moi, ça sera toujours Hercule Poirot, ça sera toujours David Suchet.
Bon.
C'est impossible. Indéclassable. Mélina, cette semaine, tu es allée voir un film de gars ou plutôt un film de père?
En fait, plutôt, je te dirais un film de famille. Le film qui s'appelle Le Retour de Papa 2, donc qui est la suite de...
Le Retour de Papa.
Le Retour de Papa, c'est ça, voilà. Donc, film voilà, qui met en scène Will Ferrell. En fait, je vous juste pour vous comprendre un peu c'est quoi... un peu l'histoire du premier, en fait, c'est que Will Ferrell, il est marié à Sarah, qui a deux enfants, donc il est le beau-père de ses enfants, puis là, il veut qu'il les aime, puis là, le père, le vrai père de ses enfants-là revient, puis là, il y a comme une compétition entre les deux, entre le père puis le beau-père, pour que les enfants les aiment, puis là, on a des situations cocasses, puis là, à la fin du film, le vrai père, il devient à son tour beau-père d'un enfant, puis là, le père puis le beau-père sont amis. Bref, on va là-dedans, je veux dire. Puis, donc, pour le deuxième, ben là, c'est un peu, comme je vous disais, le même concept que les mères indignes se tapent Noël. On a les pères, des pères qui viennent passer Noël avec eux. Donc, en fait, c'est vraiment tout à fait le même concept. C'est fascinant. Mais avant de vous en jaser plus, on va aller écouter un extrait de la bande-annonce.
Hey! Alors, la journée?
Là.
Les pères et les beaux-pères s'entendent pas toujours bien, mais Dusty et moi, on forme une équipe du tonnerre.
Les enfants, j'ai une surprise pour vous.
C'est Noël. Les deux familles fêtent ensemble.
Yeah! Allô? Grand-père Kurt?
Ils se sont pas vus depuis longtemps, je pense.
Deux semaines et on dirait que je t'ai pas vu depuis toujours!
C'est pareil.
Et la moitié du temps, c'est lui qui élève tes enfants? Alors que son total manque de virilité puisse déteindre sur ton garçon, t'inquiète pas le moindrement.
Donc, c'était ça pour la bande-annonce.
Oui.
Est-ce que c'est un peu pas clair comme film, là? Je vois Louis qui me regarde avec des points d'interrogation dans les yeux.
Ah non, c'est très clair comme film, mais est-ce qu'il y a vraiment une blague de virilité de jeune garçon?
Oui, il y a vraiment... En fait oui. En fait, parce que, je vous dirais, les pères qu'on a dans le premier, donc Dusty et Brad, qui sont joués par Will Ferrell et Mark Wahlberg, ils sont, tu sais, à l'opposé. Will Ferrell est super émotif, super fleur bleue, on pourrait dire, puis l'autre, il est super...
masculinité. Là.
Ouais, c'est ça, viril. Oh, ouais. Donc là, quand on tombe dans les grands-pères, donc les pères de ces deux-là, ben ils poussent encore plus à l'extrême. Donc le père de Will Ferrell est encore plus... Je veux dire, on les voit, on l'entend, mais on le voit pas parce qu'on est à la radio, je veux dire, mais dans la scène où Will Ferrell rencontre son père à l'aéroport, ils s'embrassent sur la bouche pendant genre 5 secondes, puis ils font ça plusieurs reprises dans le film. Une relation père-fils vraiment à ce
malaisant.
Point, oui, c'est ça, c'est malaisant, puis l'autre, il est tough, puis bon... Mais...
L'autre, c'est Mel Gibson. C'est ça?
Oui, l'autre, exactement, t'as tout compris.
Et voilà.
Il peut avoir l'air méchant ouais, quand ça. Il veut, Mel Gibson.
Voilà. Puis on a aussi dans le film Linda Cardellini qu'on avait vue dans Freaks and Geeks quand elle était jeune. Là, maintenant, elle est rendue une mère, elle joue très bien. C'est le fun qu'elle soit dans ce film-là, je vous dirais. Et, tu sais ça, on a aussi John Cena qui vient jouer le...
John!
Mais oui, Louis, il vient jouer le beau-père... Oh, ben, en fait, il vient jouer le père de la fille que le... En gros, on a Will Ferrell, qui est le beau-père des enfants.
Je suis pas convaincu que je veux vraiment ça.
Okay. Je pense qu'on devrait mettre la généalogie sur le site web.
Oui, c'est ça. Je vous ferai un petit organigramme parce que, bon, c'est pas très facile. Je sais pas non plus pertinent que vous compreniez ça. Si vous voulez le comprendre, allez voir le film. Est-ce que vous devez aller voir le film ou pas? C'est ça la vraie question qu'il oui. faut se poser ici.
Moi, je me la pose déjà plus, mais vas-y.
Voilà. Je vais vous dire, pour moi, j'ai quand même ri, honnêtement, puis ça riait dans la salle à certaines reprises, parce que des fois, ils poussent l'absurdité tellement loin que ça en devient drôle. Dans certains cas, c'est juste malaisant. Tu pousses l'absurdité, mais c'est pas drôle, c'est juste comme... Aussi, il pousse tellement l'absurdité loin que ça devient à un moment donné un peu invraisemblable. Fait qu'on a un gros manque de crédibilité dans l'histoire. À un moment donné, ils veulent aller couper un sapin de Noël. Puis là, Will Ferrell, il coupe pas un bon sapin de Noël. Il coupe une tour de téléphone, mais qui est comme un... Okay. En tout cas, c'est...
OK, on est là.
On est là. Fait que, donc, c'est vraiment absurde. La psychologie des personnages n'est pas trop crédible non plus. On s'entend, Will Ferrell, il pleure quasiment à rien. Pis tout. D'ailleurs, j'ai pas trippé sur son jeu, mais c'est pas un acteur qui me fait tripper particulièrement. Je trouvais qu'il était juste... trop intense, alors que Mark Wahlberg, je l'ai trouvé excellent dans son rôle. Tu sais, je pense qu'il était plus dans la mesure. Will Ferrell
était
plus
dans la mesure. Will Ferrell, il joue dans pas mal de films de Noël, il me semble.
Mais Will Ferrell est un acteur de comédie reconnu pour justement son jeu un peu trop intense.
Mais c'est ça.
Regardez Anchorman, l'intensité de son jeu est utilisée de manière efficace. Là, ouais. Moi, j'ai l'impression
ça
que...
l'a pas... Non, c'est ça. Ben, c'est ça qu'ils ont voulu faire, mais ça le rend pas... Puis ça l'a pas rendu plus dans le premier, ce qui m'a fait que je me suis posé la question... Pourquoi faire une suite à ce film-là? Je veux dire...
Moi, j'ai une petite idée pourquoi.
Pourquoi?
Pour l'argent.
Oui, oui, probablement. C'est des films qui sont très mal cotés sur Rotten Tomatoes. Là. On parle de genre celui-là là, que je vous parle en ce moment, le 2, Le Retour de Papa 2, je pense qu'il est à 13% ou quelque chose comme ça. Donc, ça l'a pas plu à grande personne. Donc, écoutez, j'ai versé une petite larme à la fin parce que la fin était cute, puis là, tout le monde chantait, puis tout le monde dansait, puis tout le monde s'aimait, puis... C'était cute, mais sinon, je vous le recommande pas particulièrement. Si je fais une comparaison avec l'autre film de la semaine dernière, Les Mères indignes, C'est à Noël, je vous dirais que Les Mères indignes, c'était plus vraiment un film de femmes, de filles. Ben, plus de femmes, en fait. C'était vraiment ça le public cible. Dans le Retour de Papa 2, on ciblait vraiment plus un public familial. Il y avait des familles dans la salle. Je pense que ça peut être un bon divertissement si tu veux occuper tes enfants un vendredi soir puis tu veux pas qu'ils niaisent à la maison, tu les amènes au cinéma puis tu vas voir ce film-là, ça passe bien. Je pense que... Mais sinon, écoutez, la façon que ça finit, ils ont même ouvert la porte à une autre suite, à un troisième. J'espère fortement
que... Le grand-père qui arrive?
Non, là, ça serait le beau-père de Will Ferrell parce que sa mère, c'est divers... C'est non pertinent. J'espère que ce film-là ne verra pas le jour. Je pense que...
d'une belle mort.
Non, mais oui, je pense qu'il y a moyen de faire des films de Noël, des comédies de Noël... qui fonctionne.
Oui, mais Mélina, tu connais le dicton, jamais 203.
Ah oui, bon, ben, c'est ça. La même chose pour, j'imagine, qu'on aura Les Mères indignes se tapent la Saint-Valentin, quelque chose comme ça. Bref. Une note, je vous dirais, je suis allée avec un 6 pour Bad Moms 2. J'irais avec un 6 pour Le Retour de Papa 2, mais comme Louis a donné un 6 au Crime de l'Orient Express...
Et qui est probablement beaucoup meilleur que ces deux films-là.
Voilà, je suis en train
vas-tu descendre en deçà de la barre du 6?
Je pense que je descendrais ces deux notes-là, puis j'irais peut-être pour un 3.
On va vouloir faire un erratum sur le 6.
Oui, ouais, un erratum, voilà.
Effectivement. Eh bien, merci Mélina.
Merci.
Alex!
Ce projet-là, je vais le faire. Je vais le faire jusqu'au bout. Je te jure.
Ça ressemble pas à Rebecca, ça.
Ramirez se doute de quelque chose. Il est pas crédible, Simon.
J'ai besoin de l'aval d'Alex. Avant demain.
Bon, là, ça va faire. J'ai appelé la police. Fait que t'es mieux de donner tes nouvelles. Tu vas tout perdre, Alex.
Il a tout vidé son compte. C'est Claire qui est partie.
Pourquoi tu t'intéresses à mon dossier?
Pour Claire.
Vous venez d'entendre la bande-annonce du film québécois « Nous sommes les autres ». C'est le premier long-métrage de Jean-François Asselin, le réalisateur qui, souvenez-vous, nous avait donné « Plan B ».
Oui.
Et comme pour « Plan B », il a aussi co-écrit ce film avec Jacques Drolet. Le film met en vedette Émile Procloutier, Pascal Bussière et l'humoriste Jean-Michel Anctil, qui est d'ailleurs assez crédible dans un rôle beaucoup plus sérieux qu'on en a l'habitude. Et pour être honnête, la bande-annonce laissait croire en un film, à mon avis, beaucoup plus décousu et abstrait qu'il ne l'est. Il y a tout de même une touche de surréel et de métaphorique dans ce film-là, mais vraiment pas autant qu'on pourrait le croire en voyant la bande-annonce, donc ne vous inquiétez pas, c'est accessible jusqu'à un certain point. Nous sommes les autres, c'est l'histoire de trois personnes pour qui la vie est transformée par Alexandre Picard, un grand architecte caractériel et imprévisible qui a disparu dès le début du film. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, parce que l'histoire tourne autour d'un personnage... qui n'est pas là
qu'on ne voit jamais, en fait.
Peut-être. Ça c'est un débat, ça.
J'ai pas été voir le film, fait qu'il n'y aura pas de débat.
Il n'y aura pas de débat, non, c'est ça. C'est ça. Donc, Émile Procloutier, qu'on dépeint comme une espèce d'architecte sans succès, avec des difficultés psychologiques et peu de confiance en lui, se retrouve à travailler en le nom d'Alexandre Picard sur un important projet d'architecture qui l'amène probablement à se découvrir sur un autre visage. Et Pascal Bussière, de son côté, interprète la conjointe d'Alexandre Picard, dépendante affective, jalouse et tourmentée. C'est aussi la collègue de travail d'Alexandre et son horrible manque, évidemment affectif, l'amène à se rapprocher d'un conseiller sinistre qui est le troisième personnage clé, Jean-Michel Anctil, qui l'aide dans son deuil et qui enquête sur la disparition de son mari. Le personnage du conseiller sinistre, un peu terne et timide avec un passé alcoolique, qui se voit confier des grandes responsabilités au sein de la compagnie, réalise de son côté, peu à peu, par ce qu'il lit d'Alexandre Picard, qu'il n'est pas à sa place dans sa vie rangée. Il expérimente la vie et l'expression artistique dans une étrange relation avec la conjointe de Picard. Donc imaginez l'espèce d'incroyable triangle autour d'Alexandre Picard, la fameuse architecte. C'est ça qui fait le film, en fait. Mais qui est-il? Quand reviendra-t-il? Est-il vivant? C'est toutes les questions qu'on se pose tout au long du film, ou enfin qu'on veut qu'on se pose tout au long du film. Et je dois dire, ce film-là est complexe, bien ficelé, les personnages sont tous très forts et on s'attache à chacun d'eux, même si par moments ils nous rendent mal à l'aise, donc c'est pas nécessairement un film trop agréable. Tu l'aimerais, Louis, ce film?
Vraiment.
Parce qu'il y a vraiment des moments de malaise à la problème d'infiltration.
Mais meilleur que ceux de problème d'infiltration.
On n'entrera pas dans ce débat.
Je refuse de répondre.
Mais c'est ça. Louis, je pense que t'aimerais peut-être les métaphores et l'ambition, surtout à la fin de ce film-là. C'est un film au débit un peu instable, mais parfois un peu lent. Personnellement, ça ne me déplaisait pas parce qu'il y a toujours quelque chose dans les yeux des personnages ou dans l'attente qui le justifie. C'est un excellent film. Je donne la note de 8,5 sur 10 à ce film. Et si vous avez vu Plan B du même réalisateur, vous aimerez sans doute ce film. Nous sommes les autres. Et si vous n'avez pas vu Plan B, faites tout en votre pouvoir pour regarder cette mini-série de très haut calibre.
Là, en tant que personne qui n'a jamais vu Plan B, puis qui n'a pas l'intention de voir Plan B...
C'est dommage.
Je me sens vraiment...
Tu vas brûler en enfer.
Agressé.
C'est la seule explication.
Tu vas brûler en enfer.
C'est la seule explication possible.
Voir Plan B.
Je vois pas d'autre option.
Moi, je trouve que c'est qu'on innove de ce côté-là du cinéma québécois avec cette série-là et ce film-là. Et il y a vraiment, je trouve, des éléments similaires entre l'un et l'autre, si on parle de la musique, de la couleur, des personnages.
Même
les
acteurs.
Voilà, oui, les acteurs.
Mais là, est-ce qu'on innove plus qu'un film d'auteur qui est également un film de zombies ou bien moins que ça?
Ah ben oui, là. Ben, ça dépend, on innove dans quel sens? Si on innove dans faire n'importe quoi, non. Si on innove dans quelque chose, disons, de plus introspectif, oui. C'est un film introspectif, c'est pas un film, disons...
Il n'y a pas d'allégorie.
Il n'y a pas d'allégorie, il n'y a pas de moment...
Sur le capitalisme qui est représenté par quelque chose.
Mais c'est le genre de film ou de série que tu continues à... que ça continue à tourner dans ta tête après l'avoir vu, puis que tu continues à y penser dans ton quotidien à quelques reprises, ouais.
C'est pas un film que tu essaies d'oublier quand tu sors, mais c'est pas un film que tu oublies quand tu sors.
C'est pas un film que tu essaies d'oublier, mais c'est pas un film que tu oublies. Mais...
Ouais. Tu veux pas l'oublier comme, mettons, le film de zombies?
Le film de zombies était excellent. Les Affamés est un film qui j'explique l'évident que Le problème d'infiltration est un excellent film, probablement un des meilleurs films québécois de 2017, que Les Affamés devraient être un proche suivant de problème d'infiltration en termes de meilleurs films de 2017. Et j'espère que le Gala du cinéma québécois va reconnaître ces deux chefs-d'œuvre lors des nominations.
Mais si t'as pas vu les Nous sommes les autres, tu peux pas le compter dans ton top.
Absolument.
Parfait. Bon, mais je vais devoir
aller voir
Le problème.
Et je pense que tu vas aimer ce film.
Parfait.
Alors voilà, donc c'est ça. Si vous avez pas vu Plan B, ben faites tout ce que vous pouvez pour aller voir cette mini-série que j'avais, souvenez-vous, à laquelle j'avais donné presque la note de 10 sur 10.
Oui.
Ce qui est mon top.
Moi, je trouvais qu'il y avait un petit peu... Il y a quelque chose qui manquait dans le film comparé à Plan B.
Oui, tout à fait. Mais, et je pense que c'est plus facile de faire une série qu'un film à ce compte-là.
Puis c'était aussi son premier long-métrage. Là, je pense qu'au niveau de la réalisation d'un long-métrage, il manquait peut-être un petit peu de maturité.
Ouais, niveau du rythme.
Ouais.
Niveau de,
ouais, mais ouais. Sinon, waouh, c'est excellent.
Absolument.
Laissez reposer encore une couple de semaines sous les néons pour que ça mûrisse comme il faut.
Merci, Louis, pour cette belle poésie.
Hey, les trucs de banane, ça marche toujours.
Bon film, tout le monde.
Bon cinéma.
Louis, après Keanu Reeves, tu nous présentes l'acteur le plus diabolique de l'histoire, Matt Damon.
Je refuse ce jeu de mots.
Ah.
Voyons donc.
Mais quoi? Bon.
Là, j'avais oublié que tu faisais bien ton travail. Fait que moi, je me devais faire une petite intro comme mystère en demandant mais qui est l'acteur qui a été nommé par Forbes comme étant une des stars les plus profitables de tous les temps et qui, à l'âge de 47 ans, est l'acteur qui a rapporté le plus à lui seul.
Ah oui! Il a commencé jeune, hein?
Oui, ben,
ça aide aussi, j'imagine.
Oui, son premier rôle était dans Good Will Hunting, il avait à peine 17 ans.
Oui.
Mais d'ailleurs, avec son meilleur ami, c'est Ben Affleck.
C'est son meilleur ami?
Oui, ils ont grandi ensemble à partir de l'âge de 10 ans. Qui ont commencé à grandir ensemble à Cambridge, Massachusetts, qui ont commencé à triper sur le cinéma et qui avaient des rêves de se ramasser dans l'industrie du cinéma depuis un très jeune âge.
Ben, on est content pour eux.
Il est bien placé. Moi, je me posais tout le temps la question, peut-être tu vas y répondre, mais est-ce que Matt Damon a vraiment... On dirait que George Clooney puis Brad Pitt n'ont pris sous son aile. Je sais pas si c'est moi ou il me semble que je vois
à cause
souvent...
Des loins, à cause du...
Peut-être que c'est à cause des océans 12.
Non.
Non.
Ce n'est pas George Clooney ni Brad Pitt, c'est Steven Soderbergh. Okay. Qui l'a pris sous son aile, qui est le directeur des films Ocean Eleven.
Ah, OK.
Mais, ah bon.
Qui est aussi un grand ami de George Clooney.
OK.
Et, donc, c'est là où ce que...
Par extension, sont tous très amis, j'imagine.
Mais ultimement, on s'entendra que beaucoup de gens à Hollywood se connaissent tous, là.
Effectivement.
Fait que, c'est ça, Damon a commencé sa carrière au théâtre de son école secondaire. Moi, j'aimerais vraiment retrouver, mais en 88, ça doit être plus compliqué à trouver.
De quoi ça?
Quand il faisait du théâtre au secondaire.
Ah oui, ça doit être assez dur à trouver, en effet. Oui.
son premier film construit comme professionnel a été un coming of age qui s'appelle Mystic Pizza. Il n'y a pas eu de sortie québécoise. Sorti en 1988, mettant en vedette nul autre que Julia Roberts.
Mais il était jeune de bord en 88. S'il était au théâtre en même temps, puis son premier film. OK, wow.
C'est ça. C'est en 97 qu'il va toucher la gloire alors qu'il coécrit et joue dans l'excellent film Le destin de Will Hunting, Good Will Hunting. C'est également dans ce film qu'on va explorer pour la première fois la complicité entre Damon et Ben Affleck, deux amis d'enfance. Bon, je me répète. c'est d'ailleurs à la suite de sa rencontre avec Steven Spielberg sur le set de Good Will Hunting que Matt se retrouve avec le rôle éponyme dans Il faut sauver le soldat Ryan, où encore une fois, il prouve tout son talent d'acteur. Mais c'est vraiment en 2001 qu'on le voit atteindre des sommets avec les deux franchises les plus profitables de son existence. Quelles sont ces deux franchises, Jim?
2001?
On a déjà nommé une. Avec...
Ben, Océan 12, 13, 11.
Oui, où il joue le rôle du voleur Linus Caldwell. Mais la deuxième série...
Moi, je sais, mais je l'ai sur le bout de la langue.
Quelle année?
Je n'arrive pas à aller la chercher.
2002.
Le
titre français était « La mort dans la peau ».
Oui, c'est ça, exactement.
Ouais, c'était la série des Bourne, en fait.
Ah, Bourne,
qui était
oui.
La Bourne Trilogy en anglais, qui est une série de romans d'action inspirés des livres de Robert Ludlum, où Matt Damon joue un ex-assassin de la CIA amnésique. Rôle qu'il reprendra en 2004, en 2007 et en 2016 pour respectivement le 2, le 3 et le 5 de la série.
Et il n'y en a pas un qui s'en vient d'ailleurs de ça?
Non, c'était l'année passée, le dernier.
Ah, c'est l'année passée.
Ben, il y a des rumeurs comme de quoi qu'un 6 s'en vient, mais là, un moment donné, c'est... Là, on touche à un de mes sujets favoris parce que la série Bourne, à la base, a été dirigée par Paul Greengrass, qui est un innovateur dans le film d'action, de la manière dont il tourne ses scènes de combat, qui sont de manière tout à fait magnifique. C'est lui le premier qui a introduit l'idée de la caméra qui la shaky cam, la hand cam, même quand on tourne les scènes de combat. Truc qui, aujourd'hui, a l'air dérivatif parce qu'il est utilisé par beaucoup d'autres films. D'ailleurs, il y a une scène de combat dans Le Crime de l'Orient Express. C'est tourné en shaky cam, c'est un peu décevant. Mais, parce que c'est une méthode de combat, c'est une méthode de tournage qui est vraiment intéressante si elle est bien faite, mais qui se moffe facilement et qui, si tu veux économiser, s'utilise beaucoup en combinaison avec un type d'édition très rapide qui coupe les scènes et qui te permet donc de cacher les doubles.
OK, c'est ouais, ça. Ouais, effectivement.
C'est ça. Paul Greengrass ne travaille plus d'ailleurs sur la série Bourne parce qu'il dit que ça fait longtemps.
Donc, déception pour toi.
Un peu. Dans les mêmes années, Matt Damon fait également une apparition dans Eurotrip comme étant le chanteur dans le groupe Scotty Doesn't Know. C'est aussi la voix de Spirit dans Spirit, les talons des plaines.
Ah ben, qui l'a dit?
Non.
oui, c'est la voix de... Ben, dans la version américaine, évidemment.
Ah, oui, en anglais.
L'autre raison pourquoi est-ce que j'aime beaucoup Matt Damon, c'est que c'est un acteur qui fait énormément de sci-fi. Il n'a pas peur de prendre des rôles un peu à l'extérieur des sentiers battus. On l'a vu, entre autres, dans l'adaptation de la nouvelle de Philip K. Dick, The Adjustment Bureau. On l'a vu aussi dans Elysium, de Zero Theorem. Dans Interstellar, où il jouait un scientifique qui souffrait un peu de cabin fever.
Ah oui!
Oui, ben,
c'est
oui.
Un genre place, là. Ah oui, dans ça.
Oui, puis il était excellent, d'ailleurs, dans ce rôle-là, de l'espèce de scientifique un peu fou.
Oui, OK.
Plus récemment, on l'a vu dans l'adaptation du roman à succès de Andy Weir, Le Martien, où est-ce qu'il fait pousser des patates dans du... C'est ça?
Ah oui, effectivement.
Puis cette année seulement, on l'a vu dans The Great Wall, un film dirigé par un nouveau réalisateur chinois qui était pas très bon. Bienvenue à Suburbicon, qu'on a critiqué la semaine passée. Et, ou voilà deux semaines. Ainsi qu'on va le voir prochainement dans Downsizing, un autre film de sci-fi, où cette fois-ci, il joue le rôle d'un père de famille qui veut se faire réduire pour pouvoir participer à une nouvelle communauté de gens tout petits. C'est ça.
C'est bien.
Fait que bref, Matt Damon, c'est un acteur qui fait autant dans le drame, dans la comédie, que dans l'action. C'est un acteur qui est prêt à rire de lui-même, qui est prêt à aller sur des shows qui n'ont pas d'allure, qui est prêt à accepter des rôles qui n'ont pas d'allure.
Qu'il a besoin de beaucoup d'argent ou c'est parce qu'il aime
le gars est déjà un des acteurs d'Hollywood le plus riche à 47 ans. Je pense qu'à ce point-ci, il le dit à plusieurs reprises, il le fait pour le plaisir. Puis si tu veux, c'est un acteur qui est vraiment charmant et charismatique, également hors caméra. Il y a certains acteurs, des fois, un des acteurs favoris, William Dafoe, et hors caméra, il est un peu rough.
Il est pas agréable.
Ben, c'est un monsieur. Beaucoup.
Un gros égo.
Ouais, non, juste, il est très sûr de lui-même, puis des fois, quand on pose des questions un peu plus, il préfère déflecter. Matt Damon, il s'en fout. Si tu veux voir des scènes très drôles, les compilations de lui au show de Jimmy Kimmel dans le Tonight Show, Jimmy Kimmel, c'est vraiment très drôle, parce qu'il a longtemps eu un très long running gag où est-ce que Jimmy Kimmel invitait Matt Damon, mais il devait le couper parce qu'il avait trop d'invités. L'année passée, Matt Damon a pris d'assaut le plateau et a occupé le siège de Jimmy Kimmel un soir au complet.
Non.
Il s'est introduit dans l'écran derrière Jimmy Kimmel pour commencer à passer des messages au travail. C'est vraiment...
C'est pas pire, ça.
Non, c'est ça. Okay. Fait que, non seulement un acteur polyvalent, diversifié...
Ouais.
Capable d'accepter des rôles en dehors des sentiers battus, mais en plus, un jeune homme charmant.
Ben merci Louis!
Un plaisir!
Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? La route est prête, le ciel est bleu. Il y a des chansons dans le piano à queue. Il y a de l'espoir.
Cette semaine, on vous sort de la tourmente, du froid et de la noirceur. Voici notre top 3 des films réconfortants.
C'est le moment du top 3.
Cette semaine, à tour de rôle, on vous présente chacun de nos trois films qui nous font du bien quand ça va pas ou quand on se rend compte qu'il fait 50 degrés de plus à Dubaï et qu'on a envie de se réfugier sur le soleil. De mon côté, j'ai tendance à aimer regarder les films d'espoir cute et vous, messieurs, dames?
Oh boy, pas les films d'espoir cute?
Moi, j'ai vraiment hâte d'entendre vos top 3 respectifs, en fait.
Ça va être le fun.
Ça va être
intéressant. On va découvrir beaucoup sur la personnalité des gens. Est-ce que je peux commencer par mon premier?
Louis, lâche-toi, Luce.
C'est un des favoris que je réécoute pas mal religieusement à chaque hiver parce que j'haïs l'hiver avec une passion. Puis, parlant... Moi, c'est ça. Moi, je sais. Je cherche justement à obtenir un visa ailleurs. Mais c'est un film d'ailleurs qui se passe dans des endroits où il fait chaud. Il y a une espèce de thème simili-Moyen-Orient. C'est les chroniques de Riddick, avec, entre autres, Vin Diesel dans le rôle principal de Riddick, qui est un film de science-fiction, action, où est-ce que...
Un divertissement.
Calvin. Ben, Riddick est un criminel recherché qui revient sur une planète où il mène un mouvement de révolution. C'est compliqué. Il y a des nécromorphes qui sont... C'est excellent dans le genre... Pourquoi? Dans le... Oh my God, over the top.
Ah ouais.
Ouais, fait que les chroniques de Riddick...
Ça serait ton numéro 3?
Ce serait mon numéro 3.
Okay. Ça te fait sentir bien d'écouter ça?
Ah, vraiment. Ah, okay. Ah, vraiment, je me sens bien. Mon numéro 2, ce serait La Matrice.
Évidemment.
La Matrice originale.
Et non pas le 3.
Non, et non pas le 3. D'ailleurs, bon. Les chroniques de Riddick, c'est le 2 de 3 aussi dans une série de films.
Okay.
Qui a commencé par Pitch Black, les chroniques de Riddick et ensuite Riddick. Ils ont comme étarisé. Et mon premier, mon top 1, également un film avec Keanu Reeves, après La Matrice, c'est Constantine.
Ouais.
Film de 2005 où Keanu Reeves joue le rôle éponyme de John Constantine, qui est basé sur un comic book où c'est un chasseur de démons souffrant du cancer, destiné pour l'enfer, qui se bat contre les forces des ténèbres pour sauver l'âme de quelqu'un. Mais ça me fait beaucoup plaisir. Il y a une belle morale à la fin, c'est-à-dire que fumer, c'est mal.
Okay.
Il y a vraiment une scène magnifique où est-ce que tout le long du film, on le voit sortir un paquet de cigarettes, puis à la fin du film, il refait le même geste, puis c'est un paquet de Nicorette.
Oups.
Mais c'est de toute beauté. J'adore ce film-là.
Tu viens nous dévoiler la fin, là. On a le droit de divulgâcher le paquet de Nicorette?
Oui, je pense que oui. Oui, c'est okay. Pas ça a zéro rapport avec le reste de la patente. Fait que ce serait ça, mes trois, mon top 3.
Eh bien.
C'est intéressant parce que ce genre de film-là, moi, ça ne peut pas nécessairement me sentir bien, mais bon, chacun ses.
Oui, chacun son.
Chacun ses méthodes.
Tout à fait. Et toi, Mélina, de ton côté?
Moi, je suis allée. Bon, voilà, moi, mes films qui me font sentir bien, c'est ça, comme je disais, c'est pas du tout le même genre de film que les films de Louis, parce qu'on est des personnes différentes, on s'entend.
Oui.
Donc, sans plus tarder, je vous présente mon top 3. Alors, en troisième position. Je suis allée, et peut-être que vous allez rire ou pas, parce que vous allez peut-être même pas connaître ces films-là, mais bref, je suis allée avec le film La Saint-Valentin, Valentine's Day, qui était le premier d'une trilogie non officielle, si on veut, de Gary Marshall. C'est lui qui a fait Pretty Woman, puis la princesse, là, avec Anne Hathaway, Princess Diaries, mais bon.
Ah.
Le journal d'une princesse, en français?
Oui, ça, j'ai vu ça.
OK, bon, c'est lui qui a réalisé, mais...
Ah oui?
Ouais, non. J'ai eu des mauvaises passes, OK?
Il a fait une genre de trilogie non officielle, donc on a Valentine's Day, après ça, on a Happy New Year's, puis on a récemment, qu'est-ce qui est sorti... Joyeuse fête des mères. Donc, bref, c'est le genre de film où t'as beaucoup d'acteurs qui vivent plein d'histoires en même temps, puis là, à la fin du film, les histoires finissent par se croiser, puis c'est le fun, puis ça fait du bien à l'âme, puis j'aime ça. Il est pas très bien coté, ce film-là, sur Rotten Tomatoes, mais bon, moi, un bon divertissement pour l'esprit quand ça va pas bien. En top 2, je suis allée avec le film Bébé mode d'emploi, Life as We Know It, qui est avec Catherine Eagle.
Mon Dieu, le nom, la traduction n'a aucun rapport avec...
Les traductions québécoises à l'occasion, là, c'est rough.
Et oui, un petit peu, mais en fait, ce film-là est vraiment très cute. Moi, j'avais beaucoup aimé parce qu'en fait, c'est un couple qui a un enfant, puis là, ils désignent chacun leur meilleur ami comme parrain et marraine, qui avaient déjà essayé de matcher ensemble auparavant, mais ça n'avait pas fonctionné. Puis là, il décède tragiquement quand l'enfant a un an. Fait que là, le parrain et la marraine, qui sont joués par Catherine et Josh Duhamel, doivent garder l'enfant. Mais pour le garder, il faut qu'ils vivent ensemble. Donc là, c'est plein de situations. C'est le fun, c'est cute. Encore une fois, ça fait du bien à l'âme. Et en première position, je suis allée avec le très, très bon film Orgueil et préjugés, basé sur le roman de Jane Austen, qui a été fait en 2005 avec Keira Knightley, qui est l'histoire d'amour qu'on connaît tous entre Monsieur Darcy et Elizabeth, qui luttent contre leurs orgueils et dépassent leurs préjugés afin de finalement se marier à la fin du film.
J'ai lu le livre,
oui,
parce que c'est un classique de la littérature, puis ça vaut vraiment la peine en tant que fan de littérature, mais j'ai préféré la version Pride and Prejudice and Zombies.
J'ai pas de commentaire à faire là-dessus.
Je suis un peu surpris que personne ait nommé Mange Prix M normalement dans un top 3 de films.
Toi le nommes-tu?
Non, je nomme pas, non. Non, pour deux raisons très personnelles. Moi, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai tendance à regarder des films d'espoir cute et kitten, ou, mais calme. Surtout, évidemment, j'ai gardé ça pour la fin, mais surtout des comédies, parce que quand je file un peu tout croche, j'aime rire, j'aime voir des gens heureux. Et la vérité, c'est qu'en général, je regarderais la série Kaamelott. Mais là, c'est un top 3 des films réconfortants, donc je vais m'abstenir des séries. Oui. Voici donc mon top 3 en troisième position, l'incroyable... Vous avez un nouveau message. You've got mail.
T'es pas sérieux.
Avec Tom Hanks et Meg Ryan. Non, c'est vrai en plus. Avec Tom Hanks et Meg Ryan.
J'ai pas besoin de le croire, mais je refuse de dire ça.
C'est super vieux. Ça a mal vieilli. C'est un placement de produit monstre pour America Online. Surtout quand on pense à ce qui est arrivé à AOL aujourd'hui. J'ouvre des parenthèses d'ailleurs. Saviez-vous que le système de messagerie instantanée AIM, AOL, Instant Messenger, qui fonctionnait encore depuis 1997, va fermer ses portes le 15 décembre de cette année. Oui!
Oui, j'ai entendu la nouvelle.
Quelle tristesse!
Je vais allumer une chandelle le 15 décembre.
Non, parce que c'est Star Wars. Ça va être encore mieux. Donc, voilà. Donc, l'histoire, c'est une jeune propriétaire de librairie indépendante new-yorkaise qui voit sa vie retourner quand le Godzilla des boutiques de livres ouvre ses portes dans le quartier. Comble de malheur... Son propriétaire rencontre anonymement la jeune femme par Internet. Nouvelle technologie prometteuse en 1998. C'est cute, ça finit bien. American Dream, amen. Bon, maintenant que j'ai fait ma part avec le cinéma américain, on retourne en France parce que c'est les champions de la comédie au cinéma. En deuxième position, OSS 117, le premier ou le deuxième sans distinction, avec Jean Dujardin qui incarne Hubert Bonisseur de Labatte, un agent secret français complètement déconnecté, mais pourtant persuadé d'être dans le coup. C'est drôle. Moi et mon ami Guillaume, d'ailleurs, on connaît toutes les répliques par cœur. Ça vous redonnera le sourire rapidement.
Ils font souvent ils disent des phrases comme ça, puis tu comprends pas pourquoi ils se mettent à rire, puis c'est tiré du film.
À la défense, c'est le premier film des deux top 3 que je trouve intéressant.
Merci. oui, c'est ça. Ça va vous redonner le sourire très rapidement. Surtout que ça se passe en Égypte, donc il fait soleil. Finalement, en première position, Rabbi Jacob avec Louis de Funès, un incontournable de la comédie française, un homme d'affaires raciste, caractériel, se retrouve malgré lui à voler l'identité d'un rabbin américain et très prestigieux. C'est un film rempli d'absurdités, d'exagérations caricaturales. C'est cocasse et même parfois burlesque. C'est évidemment du Louis de Funès, donc on s'y attend. Je me tente pas de voir ce film-là. Ça fait je sais pas combien de fois que je le vois et il date quand même de 1973. J'ai eu beaucoup de misère à choisir parce qu'il y en avait beaucoup de films de comédie qui m'intéressent. Et d'ailleurs, je profite pour dire que si vous êtes à court d'idées, pensez film français, à mon avis. Et si vous savez pas quoi prendre, un bon film avec Franck Dubosc allégera votre intérieur.
Mais j'avais pas pensé à Rabbi Jacob, mais c'est vrai que c'est du très drôle.
C'est de l'absurdité
comme on l'aime et non pas comme dans Le Retour de Papa 2.
Ah oui, absolument.
Moi, je refuse de penser au Rabbi Jacob. C'est plus comme ça que je le filme.
Bon, enfin. Louis, je sens que tu vas nous parler des sorties cinéma, me trompe-je?
As-tu une crise cardiaque, Jim?
Non, absolument pas. Non, tout va très bien. Je t'écoute.
OK, c'est vraiment à mon tour. J'ai mal compris où est-ce qu'on s'en allait.
café, Louis.
Non, justement. Parce qu'on s'en va bruncher après l'émission. J'ai pas encore eu mon café.
C'est ça.
Donc, les films cette semaine, c'est plus maigre un petit peu parce que c'est vraiment le mois de décembre. Il va y avoir toutes les grosses sorties. Fait que cette semaine, on a Coco, film d'animation de Disney dirigé par Lee Unkrich, qu'on a aussi connu comme directeur de Histoire de joie 2 et Trouver Nemo. Coco, c'est malgré le fait que sa famille ait banni la musique depuis des générations, Miguel rêve de devenir un musicien accompli comme son idole Ernesto de la Cruz.
Oh, ça a l'air cute.
Désespéré de prouver son talent, Miguel se retrouve dans le coloré et éblouissant territoire des morts suite à une mystérieuse série d'événements. Sur son chemin, il rencontre le charmant filou Hector et ensemble, ils embarquent dans une aventure extraordinaire afin de découvrir la vraie histoire de la famille de Miguel. C'est un univers du film... L'univers du film est basé sur la fête mexicaine de Dia de Muertos, le jour des morts. Fait que c'est vraiment esthétiquement très plaisant comme film. Beaucoup de blanc et noir. C'est vraiment cute.
Il y aura beaucoup de chansons dans ce film-là.
C'est Disney, hein?
Oui.
Ouais, c'est ça. dans le plus sérieux, par contre, on a aussi de l'heure la plus sombre, la version française de The Darkest Hour, drame biographique de guerre. On suit la vie de Winston Churchill à partir de 1940, lorsqu'il devient premier ministre en pleine Deuxième Guerre mondiale.
Je veux le voir.
Churchill y est joué par Gary Oldman, qui est Sirius Black dans l'univers de Harry Potter, et le commissaire Gordon dans les Batman de Christopher Nolan.
Bon.
C'est dirigé par Joe Wright, qu'on a surtout connu pour Pan, l'histoire originale de l'histoire de Peter Pan. Pan. Également pour son adaptation de Anna Karenina. Moi, j'invente pas, hein, c'est vraiment ça la traduction française. Dans les films québécois, on a que j'irai pas voir. On a Junior Majeur, qui est un drame sportif dirigé par Éric Tessier, qui a également dirigé Sur le Seuil, 51-50 des Hommes, et aussi Pee-Wee 3D. Cinq ans après la victoire de son équipe au tournoi Pee-Wee de Québec, Jeannot Trudel, un jeune hockeyeur prodige âgé de 18 ans, évolue maintenant pour les Saguenayens de Chicoutimi dans la Ligue Junior Majeure du Québec. À l'aube de sa sélection chez les professionnels, de nombreux obstacles viendront compromettre sa carrière ainsi que ses amitiés les plus chères.
La science-fiction à son meilleur.
C'est Antoine-Olivier Pilon qui est dans ce film-là, qu'on a vu dans Mommy de Xavier Dolan.
Oui, on a aussi Claude Legault et Alice Morel-Michaud.
Belle brochette.
Celui que moi je vais aller voir, qui est Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.
Oui.
Après des mois sans que l'enquête sur la mort de sa fille ait avancé, Mildred Hayes prend les choses en main, affichant un message controversé visant le très respecté chef de police sur trois grands panneaux à l'entrée de la ville. C'est un film de Martin McDonagh qui a aussi réalisé Bienvenue à Bruges, ainsi que Les Psychopathes, qui en anglais c'est Seven Psychopaths. En tout cas, ça avec Frances McDormand, qu'on a vu dans V. César dans Moonrise Kingdom, ainsi que Woody Harrelson, l'entraîneur dans Hunger Games. Ce serait ça pour les sorties cinéma.
Ben merci, et en Blu-ray DVD, pas grand-chose non plus pour cette semaine, comme Louis, tu l'as si bien dit, c'est le mois de décembre qui s'en vient, donc on en aura beaucoup plus. Cela dit, un film qui sort en Blu-ray DVD, Valérian et la cité des mille planètes. Mais oui. Ce film de Luc Besson qui a beaucoup déçu Louis et qui met en vedette Dane DeHaan et Cara Delevingne, qui eux ont beaucoup déçu Jim. C'est un film superbe à voir quand même, c'est magnifique, c'est grandiose, mais l'histoire et les dialogues sont horribles. Louis, tu avais proposé de mettre le son à mute et d'écouter au Wagner pendant le film. Est-ce que ça tient toujours?
Toujours, encore plus.
À essayer. Mélina, est-ce qu'il y a du nouveau sur Netflix?
Pas vraiment non plus. Mais j'ai relevé, il y a plusieurs séries originales de Netflix, mais on ne sait pas encore c'est quoi vraiment parce qu'on ne les a pas vues. Mais j'ai relevé un truc, Louis, qui m'a fait penser à toi. C'est la saison 7 de Mon Petit Poney qui arrive sur Netflix. Donc, dans à Equestria, la licorne Twilight Sparkle et ses amis ont des aventures et apprennent des leçons sur l'amitié. Donc voilà, je me suis dit, si jamais...
Les deux soirées d'hiver. Là, il y a de la diffamation qui se passe ici. Moi, j'ai été voir... mon visionnement de Mon Petit Poney, le film, était un vote de révolte contre les films d'amour poche qui s'appelait La Montagne entre nous. Concrètement, je n'aime pas... Les petits poneys.
C'est déjà la fin de cette émission. Merci Louis, merci Mélina. On se retrouve la semaine prochaine, même brunch chaîne, même brunch heure à 11h samedi pour une autre édition de Cinébrunch. En attendant, vous pouvez nous écouter ou nous réécouter sur cinébrunch.com ou sur iTunes en balado-diffusion. Et si jamais, pour une raison quelconque, vous voulez voir les bandes-annonces des films que vous avez entendus aujourd'hui, ce sera disponible aussi sur le site internet. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Bye bye tout le monde.
Bonne semaine.
Bonne semaine, à la semaine prochaine.